Les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Hong Kong est paralysé depuis 5 jours maintenant, à coups d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Violence aussi entre groupes de militants. Nous rejoindrons notre correspondante dans un instant.
Nous irons ensuite en Irak, où le pouvoir utilise la menace et la répression pour contenir les rassemblements. Rencontre avec une militante à suivre.
Emmanuel Macron promet un plan d'action renforcé pour l'hôpital public. Cela arrive bien trop tard, disaient hier les milliers de manifestants dans les rues. Et les sénateurs, ils ont rejeté le budget de la sécurité sociale pour 2020.
Un an après la première manifestation de Gilets jaunes, que reste-t-il du mouvement et des promesses du gouvernement? Il précise justement ce matin la mise en place de maisons France Service sur le territoire.
Après cette édition, Frédéric Seyss nous rejoindra pour son billet politique et il s'intéresse ce matin aux sportifs qui s'investissent en politique. De la violence de tous les côtés. La situation à Hong Kong empire et se complexifie. Hier soir, un homme de 70 ans est mort dans la mégalopole, touché à la tête par une brique qui avait été lancée par des manifestants lors d'affrontements entre plusieurs groupes. Malgré la violence de ces manifestants, la population pointe toujours de doigt la police et elle ne cache pas une occasion de l'exprimer. C'est un reportage de Florence de Changy.
Presque à chaque fois que les policiers apparaissent sur une scène de rassemblement illégal, les Hongkongais les couvrent d'insultes. Et depuis quelques jours, ces rassemblements illégaux se sont multipliés. Ils ont même lieu tous les jours à l'heure du déjeuner dans le quartier historique de Hong Kong, symbolique de la place financière internationale centrale. Cette jeune femme, assistante sociale, explique sa colère.
Je les traite de déchets. Ce ne sont que des déchets.
Vous vous adressez à la police, n'est-ce pas?
Yes. Oui, on leur crie dessus, ils sont complètement hors de contrôle. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la violence pour essayer de contrôler la situation. Mais en fait, ils aggravent la situation, on en a tous vraiment assez.
Juste à côté d'elle, un homme plus âgé demande en cantonais à ceux qui parlent mandarin, sous-entendu les Chinois du continent, de se dévouer pour nettoyer la chaussée. Il fait référence à la suggestion jugée grotesque du numéro 2 du gouvernement Matthew Cheung que les fonctionnaires aident au dégagement des rues jonchées de pavés et de débris. Quand la police décide de se retirer, cette fois sans avoir tiré de gaz lacrymogène, son départ est accompagné de nouveaux hurlements de joie, mais le carrefour névralgique va rester piéton jusque tard dans la nuit. Vendredi, les manifestants ont accepté de rouvrir partiellement une des autoroutes importantes du territoire, la Tolo Highway, pour 24 heures seulement. Ils menacent de la refermer si Carrie Lam, la chef de l'exécutif, ne promet pas de maintenir les élections de district prévues dans une semaine.
Et en soutien à Carrie Lam, le président chinois Xi Jinping s'est personnellement exprimé à ce propos hier. Il estime que les violences à Hong Kong pourraient remettre en cause le principe même d'autonomie de la mégalopole. Des violences qui traversent par ailleurs le globe. Hier soir, la ministre de la Justice hongkongaise en visite à Londres a été violemment prise à partie par des manifestants. Une première depuis le début du mouvement il y a 5 mois. La contestation populaire en Irak, en revanche, est réprimée sans équivoque. Plus de 330 personnes, pour beaucoup des manifestants, ont été tués dans le pays. Pays qui est l'un des plus riches en pétrole au monde, mais aussi l'un des plus corrompus. La contestation contre le pouvoir irakien dure depuis 1 mois et demi, depuis le 1er octobre dernier. Et pour dissuader les Irakiens de manifester, le pouvoir étouffe, menace. La commission des droits de l'homme dans le pays confirme l'enlèvement de plusieurs personnes en marge des manifestations. D'autres protestataires disent avoir reçu des lettres de menaces, des coups de téléphones inquiétants. Des jeunes femmes sont souvent visées. Notre correspondante Lucille Wasserman a rencontré l'une d'elles.
Rehem Feraz est une jeune Irakienne de 21 ans. Elle est capitaine de l'équipe nationale de basketball féminine en Irak et suit des études de médecine à Bagdad. Des compétences qui l'ont poussée à s'engager en première ligne des manifestations, explique-t-elle, installée dans un restaurant.
Mon rôle principal dans la contestation, c'était de soutenir les manifestants. J'aidais les blessés et je leur apportais des médicaments.
Mais cet engagement n'est pas apprécié de tous en Irak. Après 10 jours passés sur place, elle est finalement rentrée chez elle et a trouvé une lettre de menace accrochée à sa porte.
Sur la lettre, il y avait écrit « Arrête de manifester » avec du sang dessus. Puis quelques jours plus tard, des hommes ont appelé mes collègues pour savoir si j'étais à l'hôpital. Ma famille est très inquiète et ne m'autorise plus à y aller.
Impossible de savoir qui est à l'origine de ces menaces, selon elle.
Je ne sais pas. Il y a des gens qui travaillent pour le gouvernement dans les manifestations. Alors sûrement eux, ils prennent des photos et identifient les gens sur place.
Comme Réham, de nombreux autres manifestants disent avoir été victimes d'intimidation. Si cette jeune Irakienne dit, elle, ne pas avoir peur, beaucoup ont déjà quitté les rangs des protestataires place Tahrir par crainte de représailles.
C'était Lucille Wasserman depuis Bagdad pour France Culture. Israël a de nouveau frappé des cibles du djihad islamique ce matin dans la bande de Gaza, fragilisant un peu plus l'accord de cessez-le-feu de la veille. Une réponse en fait aux projectiles tirés un peu plus tôt vers Israël. Il se dit rassuré. Jean-Yves Le Drian semble avoir obtenu des gages de la part des pays de la coalition anti-Daesh pour ne plus prendre des initiatives unilatérales sans consulter les autres membres. Le ministre des Affaires étrangères rencontrait hier à Washington ses homologues de la coalition anti-Daesh. Et à cette occasion, les États-Unis ont affirmé que malgré les déclarations parfois fluctuantes de l'administration Trump, le pays restait bien engagé dans ce combat contre le groupe État islamique. Reste maintenant l'épineuse question du retour des djihadistes, Loïc Loury.
Des centaines de djihadistes dans la nature suite à l'intervention turque en Syrie, un cauchemar évité pour les pays de la coalition, mais un problème surtout longtemps mis sous le tapis. Que faire des combattants étrangers de Daesh détenus dans la région? Nathan Sales coordonne l'action contre-terroriste des États-Unis.
Au sein de la coalition, il y a l'unanimité pour dire que les terroristes étrangers posent un problème sérieux, qu'ils demeurent un risque important. Mais il y a franchement une différence d'opinion sur la façon de résoudre ce problème.
Manière courtoise de reconnaître de profondes divisions sur la question, de nombreux pays, en effet, traînent des pieds pour rapatrier leurs détenus radicalisés ou leurs enfants. Une position irresponsable, disait hier Nathan Sales.
Les États ont une obligation de rapatrier leurs ressortissants, de les juger pour les crimes commis. Personne ne doit attendre des États-Unis ou de qui que ce soit de s'en charger à leur place.
Des propos qui visent notamment la France, dont le ministre des Affaires étrangères était en Irak, mi-octobre, la France qui souhaite faire juger ses djihadistes sur place. Pour les États-Unis, au contraire, la mise sur pied de tels tribunaux internationaux ad hoc ne serait pas efficace. Cela coûterait une fortune, dit Washington, et n'aurait pas la même capacité à rendre justice que des juridictions nationales.
La Commission européenne ouvre une procédure juridique contre la Grande-Bretagne. Elle n'accepte pas que le pays ne désigne pas de commissaire pour le futur exécutif européen qui est censé entrer en fonction le 1er décembre prochain. Londres évoque l'imminence de ses élections législatives le 12 décembre. La Commission européenne encore, qui pourrait intégrer Thierry Breton, le candidat français a en tout cas passé hier l'épreuve de l'audition devant le Parlement européen, et cela malgré les risques de conflits d'intérêts soulevés par certains groupes politiques. Son portefeuille comprendra la politique industrielle, le marché intérieur, le numérique, la défense et l'espace. En revanche, pour le candidat hongrois, il va falloir y repasser. C'est un nouveau revers pour le Premier ministre hongrois Viktor Orban qui l'avait proposé.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le nouveau plan d'urgence du gouvernement pour l'hôpital public sera annoncé la semaine prochaine.
Oui, c'est ce qu'indiquait hier le président de la République, Emmanuel Macron. Il dit avoir compris les personnels hospitaliers en colère. Nous y reviendrons dans un instant, mais d'abord soulignons aussi la colère des sénateurs à propos du budget de la sécurité sociale et du budget pour les hôpitaux. Se sentant court-circuités, ils ont rejeté en masse hier le projet de budget de la Sécu pour 2020. Il y a eu 281 voix contre, aucune pour, 60 abstentions. Les élus disent ne pas comprendre pourquoi ces futures mesures n'ont pas été incluses dans le projet de loi qui leur a été soumis, Rosalie Lafarge.
Ces mesures pour l'hôpital, Emmanuel Macron les annonce pour mercredi à l'issue du Conseil des ministres et au lendemain du vote prévu du Sénat sur l'ensemble du budget de la Sécu. À droite comme à gauche, ça ne passe pas, les sénateurs dénoncent une mascarade.
Cette mascarade, ça n'est ni plus ni moins que le mépris du Parlement.
Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs LR.
Si le président de la République pense encore, après l'épisode des Gilets jaunes, qu'il peut se poser en face à face du peuple ou de la rue en oubliant les intermédiaires, s'il veut, encore une fois, ubériser, désintermédier la politique, il connaîtra un grave désenchantement.
C'est normal que le président s'exprime quand un mouvement social est en cours, a bien tenté de justifier la ministre de la Santé Agnès Buzyn, tout en avouant comprendre l'inconfort des sénateurs. Et même ceux de la majorité le reconnaissent. Travailler sur un budget qui sera de toute façon remis en cause par de nouvelles mesures, ce n'est pas facile à défendre. D'autant que ce n'est pas la première fois que le président méprise le Parlement, dénonce les communistes, qu'il bafoue notre fonctionnement démocratique, estiment les socialistes. Ce rejet du budget pour Bruno Sido chez les LR, c'est une mise en garde pour Emmanuel Macron.
Là, il est devant un échec, il va peut-être y réfléchir. Bon, certes, l'Assemblée va reprendre cela comme une bonne majorité Godillot, il n'y a aucun problème. Le PLFSS sera voté. Mais c'est un avertissement des sénateurs qui sont répartis sur toute la France, en milieu urbain comme en milieu rural. Ça ne peut pas continuer comme ça.
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale va effectivement repasser à l'Assemblée le 25 novembre avant de revenir au Sénat à la fin du mois.
Et d'ici là donc, les personnels attendent dans la douleur. Infirmiers, médecins, doyens, internes, ils étaient des milliers dans les rues de Paris, Besançon ou Toulouse hier pour dénoncer toujours un manque de moyens et d'effectifs dans l'hôpital public. Des maisons de services publics où l'on pourra venir faire sa carte d'identité ou payer ses impôts. Le Premier ministre Édouard Philippe annoncera ce matin la création de 400 maisons France Service de ce type à partir du 1er janvier prochain. Une mesure proposée suite à la mobilisation des Gilets jaunes il y a un an, Stéphane Robert.
Des maisons de service au public, il en existait déjà 1340 en France, mises en place par Manuel Valls. Mais elles restaient assez méconnues du grand public. Elles n'étaient pas toutes opérationnelles, certaines n'étaient ouvertes que 2 ou 3 heures par jour. Et puis les agents qui les animaient n'avaient pas tous été formés au préalable. Bref, ces structures, telles qu'elles existaient jusqu'ici, n'avaient pas fait preuve de leur efficacité. Les nouvelles maisons, labellisées France Service, répondent toutes à un cahier des charges bien précis, ouverture 5 jours par semaine et 7 heures par jour, avec à l'intérieur 2 agents au minimum, tous formés préalablement, et ils devraient en théorie, nous dit-on, pouvoir répondre à presque toutes les demandes, permis de conduire, carte d'identité, paiement des impôts, délivrance de conseils juridiques. Ces maisons France Service sont installées à la demande des élus locaux, l'État n'impose rien. On les retrouve donc essentiellement en zone rurale et dans les quartiers populaires, là où les services publics font défaut. 400 de ces maisons ouvriront leurs portes au 1er janvier sur les 2000 promises d'ici la fin du quinquennat. Parmi elles, 350 sont des structures existantes qui seront remises à niveau. Elles sont censées être un début de réponse aux attentes exprimées par les Gilets jaunes, dont le mouvement avait démarré il y a tout juste un an. Est-ce suffisant? Bien sûr que non, reconnaît-on au gouvernement. Les Gilets jaunes ont pratiquement disparu, mais la colère et les frustrations qui ont généré ce mouvement sont encore bien présentes. Emmanuel Macron, nous dit-on, en est parfaitement conscient.
Alors les Gilets jaunes ont-ils vraiment disparu? Ils ne sont plus autant mobilisés qu'il y a un an, certes, quand 300 000 personnes avaient manifesté. Mais les rassemblements perdurent, ça et là. Dans l'Oise, par exemple, près de Beauvais, Sophie Delpont a rencontré Michel, 63 ans, Gilets jaunes sur le dos.
Comme tout combattant, maintenant on sait ce qu'on doit faire, on sait où on doit aller, on sait ce qu'on ne doit pas faire. On s'aguerrit au niveau physique parce qu'on a traversé des périodes très très froides, très humides. En plus, nous on est dans l'Oise, c'est pas l'endroit le plus protégé, c'est peut-être plus agréable dans le sud de la France. Tactiquement, on a pris, puis aussi intellectuellement, on a tous grandi énormément. On a tous grandi parce que d'une simple petite révolte pour le carburant, on a réussi à vraiment ouvrir les yeux sur tout le système. Vous avez un malaise dans les hôpitaux. Vous avez un malaise dans les pompiers, vous avez un malaise dans l'enseignement, vous avez un malaise dans le privé. Quand vous avez un malaise partout et qu'il y a une cause commune, c'est à cette cause commune qu'il faut s'attaquer. Et effectivement, on a tous compris que c'était le gouvernement, les politiciens. Il faut soigner le mal. Il ne faut pas donner juste un cachet pour guérir une douleur. Il faut prendre le mal à sa racine. Le mal à sa racine, c'est notre démocratie qui a foutu le camp.
Un an après les Gilets jaunes, les mutations d'une contestation, c'est le thème de notre grand reportage diffusé ce soir sur France Culture à partir de 17h. Il est signé Sophie Delpont, a été réalisé par François-Charles Domergue et Jean-François Brun et il sera présenté par Aurélie Kiefer. La direction de Radio France souhaite supprimer 299 postes, soit 7% de ses effectifs. Cela passera en grande partie par un plan de départ volontaire et le non-remplacement de postes vacants. Le cœur de Radio France est le plus durement touché avec 30 choristes en moins, les documentalistes également, techniciens du son et réalisateurs de fiction. Comment lutter contre le sexisme et les violences sexuelles dans le monde du cinéma? Le ministère de la Culture proposait hier une série de mesures, financières notamment, pour promouvoir la parité dans le cinéma français. Est-ce vraiment la solution? Voici la réponse de la réalisatrice Toni Marshall.
Mais ça va changer que les femmes auront des budgets probablement plus importants, que ça va ouvrir les esprits à des sujets et des personnages féminins plus importants, même si là on voit bien qu'il y a une course à l'échalote et que dès qu'il y a des personnages féminins, c'est dans l'air du temps. Mais il faut que ça devienne plus profond que ça. Le cinéma est prescriptif, c'est-à-dire vous voyez pendant des années au cinéma des westerns dans lesquels il y a des mecs qui violent des filles, ça vous paraît normal. Après, on s'étonne que ça se fasse dans la vraie vie. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on écrive des histoires dans lesquelles les femmes et la diversité sont beaucoup plus inclus dans la société de l'histoire et du monde qu'on raconte. Par exemple, regardez le film de Gilles Lelouch. Il fait un film qui s'appelle Le Grand Bain. Il a le mérite d'être réussi, populaire, etc. Sur l'extrême fragilité des hommes. C'est super intéressant. Alors, on nous a beaucoup montré des femmes qui sont giflées et des mecs qui sont surhommes. Il faut arrêter. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas des hommes qui fassent une tribune dans le monde pour dire « on n'est pas comme ça » et je m'étonne qu'il n'y ait pas ça.
C'était la réalisatrice Toni Marshall, interrogée par Cécile de Kervas-Douai pour France Culture. Venise devrait connaître un nouveau pic de marée haute en fin de matinée tout à l'heure, 3 jours après avoir déjà été dévastée par des inondations records. L'état de catastrophe naturelle est décrété. En France, c'est la neige qui est tombée hier soir à gros flocons. En Isère, un homme de 63 ans a été tué après la chute d'un arbre. Ce matin, dans la vallée du Rhône, 300 000 foyers sont privés d'électricité. La circulation des trains est très compliquée, voire interrompu. Dans le nord de l'Ardèche, les transports scolaires sont suspendus. Et ce matin, seule la Saône-et-Loire reste en vigilance orange, neige et verglas. Le temps sera encore perturbé sur un grand quart sud-est et sur le nord-ouest du pays, entre pluie et flocons de neige. Comptez ce matin 4 degrés à Paris et à Lille, 6 à Lyon, 7 degrés à Strasbourg, Rennes et Bordeaux et 13 degrés à Nice.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.